Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. La saison 3 est derrière nous et on commence tout doucement cette saison 4. Enfin, tout doucement, pas tant que ça, puisqu'on a déjà un bel invité pour vous. Sur la troisième saison, on n'a pas encore trop parlé avec notre grand consultant suprême, mais on va se le remettre au programme pour la quatrième saison. Malgré tout, comme on pense très fort à notre ami Denis Boucher, on a été contacté par un auditeur qui voulait avoir quelques informations et on a pu échanger sur son expérience de vie. Et lui-même se définit comme un ancien gros dodu, qui est le terme préféré de notre ami Denis Boucher. Donc, cher invité, nous allons te donner la parole dans quelques minutes pour justement en savoir un petit peu plus sur toi, mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter mon compère de podcast aujourd'hui, à savoir Grégory Chanez du blog de Nakan. Salut Greg.
Salut Armano. Quelle présentation. J'espère que depuis le temps, les auditeurs me connaissent quand même un petit peu.
Bah, en tout cas, ils doivent te connaître plus que moi parce que moi, j'ai sauté quelques épisodes.
Oh, mais je crois qu'ils te connaissent bien quand même. Et puis, je crois qu'ils préfèrent quand on est tous les deux dans un podcast, donc ils vont aimer celui-là parce qu'en plus, on a un invité qui va nous dire plein de choses intéressantes.
Ah bah, comme toujours. Mais effectivement, en parlant de notre invité, eh bien, nous avons la chance de recevoir Benjamin. Salut Benjamin.
Salut Greg, salut Armano. Merci pour votre accueil.
Bah, je t'en prie. Alors, cher ami, quand on a eu l'occasion d'échanger tous les deux il y a quelques jours, tu me disais que effectivement il y a quelques mois, quelques années de ça, tu étais un peu un gros dodu. Et pour les plus fidèles de nos auditeurs, ils peuvent aller directement, enfin même tout le monde peut aller sur le site podcast.nakan.ch où on mettra la fameuse photo avant-après. Comme ça, on verra un peu l'évolution. Mais avant de dire où est-ce que tu en es arrivé justement maintenant, j'aimerais te laisser la parole un petit peu pour te présenter. Donc Benjamin, dis-nous tout. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Vu qu'on est un podcast transfrontalier, peut-être dis-nous dans quelle région tu opères au quotidien. Après, on va t'abreuver de questions pour en savoir plus sur ta vie de sportif.
Alors, bah, écoute, merci Armano. Bah, c'est Benjamin Clerget. Donc, c'est vrai que je t'ai contacté il y a quelques temps pour un tout autre sujet puisque bah, Nakan, ça fait quand même quelques années que je suis le blog. C'est quand même une mine d'informations et surtout, ça perdure. Et c'est ce que je te disais, c'est quand même très rare chez les blogueurs parce que ça demande un boulot fou et c'est quand même agréable de voir que c'est toujours d'actualité. Et voilà, et on le sait, le podcast l'est encore plus. En tout cas, ce format l'est encore plus et une fois de plus, Nakan est présent. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de prendre contact avec vous et j'habite en effet actuellement aux Trois Frontières, donc près de Longwy, au Tumès, donc aux Trois Frontières, hein, Belgique, Luxembourg, France, qui fait qu'au final, physiquement parlant, on n'est pas très loin, Hermano, et tu m'as d'ailleurs proposé une sortie, une petite sortie prochainement, donc bien entendu, j'ai pris note et je profite du podcast pour acter cela.
Bon alors, une sortie quand toi, tu seras en récup, mais on va voir pourquoi après.
Oui, voilà, donc j'ai 35 ans, j'ai fait un peu de sport quand même étant gamin, hein, je le précise. Mais comme beaucoup, arrivé à mes années étudiantes, j'ai beaucoup profité de la vie, j'ai adoré la musique, j'ai fait beaucoup de soirées, des soirées bien arrosées, bien sûr, classiques. Et j'ai mis quand même pas mal de côté le sport et en tout cas l'activité pendant ces années-là et surtout mes premières années dans la vie active. Et je crois qu'on est tous un petit peu pareil. On est assez surpris au bout de quelques années avec les réseaux sociaux de retomber sur les photos des anciens amis, des études notamment et globalement. Et je pense que c'est vrai, c'est pas un mythe de se dire oh là il a grossi, hein, le classique. Oh il a bien grossi. Donc moi forcément j'ai subi aussi ce type de remarques de proches. Oh t'as pris des bonnes joues, hein. Donc des remarques toujours très bienveillantes, mais qui veulent tout dire. Au début c'est drôle, mais au bout d'un moment ça met quand même une petite claque. Voilà, pour être complètement transparent. En tout cas moi je l'ai prise comme ça, la claque. Et voilà, donc je sais pas si vous voulez qu'on développe dès maintenant, mais en tout cas, moi j'ai une vraie prise de conscience. À un moment donné, alors souvent c'est toujours très féminin genre de discours, mais j'avais vraiment l'image, vous savez cette image, je sais pas si vous connaissez l'artiste Banksy, mais il a un des pochoirs où on voit deux Américains qui sont dans une carriole en train de manger une glace et il y a le petit Africain devant qui tire la carriole. Et je sais pas pourquoi j'avais cette image un peu vraiment du gras souillet qui profite de la vie, puisque dans la vie active, voilà, on profite à tous les niveaux. Par contre, on prend vite du poids sans forcément s'en rendre compte, j'insiste. Et c'est souvent l'entourage, en tout cas l'entourage proche qui est honnête et qui balance la petite critique. Voilà, donc moi, ma prise de conscience. Donc voilà, après, j'ai deux enfants en bas âge. J'ai une vie assez active, plusieurs activités aussi professionnelles. Et donc voilà, donc on pourra développer un petit peu après la suite, on va dire, comment je suis arrivé un peu à une activité sportive beaucoup plus soutenue.
Bah, effectivement, tu dis que tu as deux enfants en bas âge, donc de toute façon, tes journées sont déjà bien rythmées, j'imagine.
C'est ça, Et puis nous, on a fait un choix de vie. Donc j'étais comme beaucoup également très tourné carrière à mes débuts. Des petites déceptions professionnelles, rien de bien grave, mais en tout cas très vite ouvert les yeux aussi sur ce sujet. Alors j'ai jamais de jugement sur chacun sa façon de vivre. Et d'ailleurs, dans une vie, je vois toutes les façons de vivre qu'on peut avoir dans sa propre vie. Enfin, toutes les évolutions qu'on peut avoir. Donc voilà, mais en tout cas, nous, on a fait le choix de travailler peu et d'avoir des coûts, en tout cas, plus faibles. J'ai un ami qui dit souvent, on cherche toujours à gagner plus plutôt que réfléchir à comment dépenser moins. Donc voilà, on a une vie voilà dans un village proche de l'autosuffisance. On a des animaux, du potager et bien sûr tout ça, ça s'inscrit également dans un bien-être d'une part parce qu'on le sait, c'est important sur nos sports d'endurance et d'autre part au niveau de la nourriture, on y viendra, mais automatiquement on a accès quand même à des produits sains et surtout à moindre coût, surtout quand on voit les prix flamber là ces derniers mois. De faire son pain soi-même, quand j'achète ma farine au paysan du coin en 100% bio à 1,20€ le kilo. Bah forcément, quand tu vas dans la bonne boulangerie, t'es à plus à 6,50 le kilo. Bon, je prends cet exemple parce que je pense que c'est parlant et je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà, de faire son pain sur une année, ça représente quand même énormément de coûts, de différence de coûts en tout cas.
En tout cas, on t'a invité pas forcément pour parler de pain. On pourra en parler, mais plutôt pour parler justement de deux petites baguettes qui se mettent en mouvement, à savoir les deux petites jambes qui se mettent à courir. Toi, tu es même si là t'es dans le sud de la France, tu t'offres quelques vacances et puis tu nous as avoué que tu venais de rentrer d'une sortie de vélo. Si je ne m'abuse, tu n'es pas forcément triathlète. Tu es plutôt coureur.
Ça. Oui, coureur à pied. Après, je fais beaucoup de sports croisés. Et je suis pas dans une logique pure sportif, pure coureur et même pure sportif. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que moi je me suis fixé un seul objectif il y a quelques années quand j'étais à 83 kilos, très exactement. J'en fais 66 actuellement. C'est qu'en fait je me suis dit, je veux casser la sédentarité absolument. Je me rendais compte que c'était vraiment être sédentaire avec les fameux 6000 pas par jour conseillés par l'OMS. Et ben c'est 6000 pas par jour dans une logique très, comment on pourrait dire, monsieur tout le monde au final, parce qu'on en parle quand même régulièrement. Je me suis dit, moi, c'est terminé. J'aurais plus une seule journée sous les 6000 pas par jour. En tout cas, en termes d'activité, j'aurais plus une seule journée de ma vie sans activité. Et j'insiste, l'objectif que je me suis fixé, encore celui actuel, c'est ça en fait. C'est juste d'être actif. Donc aujourd'hui, je peux aussi bien faire un footing à 6-6,30 kilos avec madame, faire une grosse randonnée et voire même faire une séance de stretching j'ai une journée bien chargée comme pourrait y avoir avec des réunions, etc. Donc je le précise, moi l'objectif c'est bien ça et c'est encore celui-ci. J'ai souvent des amis de haut niveau qui me disent, tiens, c'est quoi ton objectif à 6 mois, prochain objectif? Je lui dis, mais tu sais, l'objectif il est déjà réussi. Donc c'est pas de la fausse modestie, bien sûr que je me fixe des cibles, des choses fun, mais voilà, l'objectif c'est bien ça. C'est faire du sport. Maintenant, forcément, la course à pied, en effet, tu l'auras compris, que les enfants, c'est plutôt facile à caser. Mais il m'arrive quand même de faire pas mal de vélo, de nager un petit peu, de faire de la marche aussi, du ski de rando en hiver, etc. Et de multiplier toutes ces activités d'endurance, en tout cas.
Bon, alors, quand on s'est parlé, justement, tu m'as parlé un petit peu de tes performances sportives. Mais surtout, tu as appuyé sur un point qui a allumé une lumière chez moi et qui a fait qu'on devrait t'inviter. Déjà, il y a cette histoire de poids. Tu nous as dit que tu pesais 83 kilos. Maintenant, tu en pèses 66. Donc, tu as presque moins 20 kilos. Tu vas nous dire en combien de temps. Mais surtout, tu m'as dit, je me suis jamais blessé dans ma pratique sportive. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus dans une deuxième partie de l'émission. Déjà, pour finir la présentation, rappelle-nous quand est-ce que tu as eu cette prise de conscience. Quand est-ce que tu t'es mis sérieusement à une activité sportive? Et puis, où est-ce que ça t'a amené, là, notamment ces dernières semaines?
Alors, c'est une bonne question et ça va être très marquant également pour les auditeurs. C'est à l'arrivée de mon premier enfant. J'avais fait la fameuse couvade, on a su me le dire également, vous voyez, dans le package.
Ah, la fameuse grossesse nerveuse.
Voilà, on a su me le dire environ une vingtaine de fois, mais au moins c'est marquant et ça, je pense que ça vous parlera aussi. Donc voilà, il y a 7-8 ans de ça, là j'ai eu cette prise de conscience et j'ai refait une première course, alors c'est le trail local, la fameuse course au saucisson dont on parle des fois en France. Et j'étais dans le deuxième tiers de course, en tout cas je terminais ces premières courses entre 10 et 20 kilomètres. À FC Max, bien souvent, comme je te le disais, Hermano, avant l'émission. Mais c'est sincère, mon généraliste, d'ailleurs, me disait, j'étais à 182 de pulse de mémoire il y a quelques années sur une sortie entière. Et mon généraliste me disait, attention quand même. Et c'est là où on va y venir. On se rend pas compte que réellement, on peut se mettre en danger quand on est en surcharge. On se met réellement en danger d'être à FC Max sur une si longue distance. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, aujourd'hui, j'arrive difficilement à dépasser les 170 BPM, voilà, à 35 ans. Et c'est réel, alors que j'étais à 182 pulse il y a 5 ans de ça. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, pour revenir à ce qui vous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la part de nos sorties allouées à l'endurance fondamentale pour être en parfaite aérobie, en aisance respiratoire. On va utiliser des synonymes pour que ça parle bien à tout le monde. Je pense qu'elle est, on a beau le savoir, elle est sous-estimée. Je le vois un petit peu hein, avec les coureurs. J'ai la chance de courir avec des gens de niveau, de coureurs de niveau national, voire international. Globalement, on court trop vite. Alors, quelqu'un qui est bon sur du 10 km ou aller éventuellement jusqu'au semi, ça va passer parce qu'on est jeune, notre système nerveux répond très bien. Et je renvoie les auditeurs à ce que vous avez fait qui est exceptionnel sur le système nerveux, la variabilité de la fréquence cardiaque, tout ce que Denis peut apporter dans le podcast. Clairement, je suis aligné complètement à ça. Donc, l'importance des sorties cool, très, très cool, j'insiste, en aisance respiratoire. Moi, je suis au cardio. Je vous le dis aussi, je travaille encore au cardio, même si je me connais très bien. Pour ceux qui n'ont pas de cardio, j'aime bien donner une petite phrase toute simple, c'est qu'on doit pouvoir respirer avec le nez. Alors attention, faut pas le faire, parce qu'il y en a, ils pensent qu'il faut le faire, ils ont mal compris. Mais j'aime bien parce que j'essaie de trouver des moyens de partager à des amis qui s'y mettent, sans avoir tout l'attirail, le cardio, etc. De pouvoir parler simplement, soit d'être en aisance respiratoire ou de pouvoir respirer qu'avec le nez, ça représente vraiment ce que c'est la sortie en endurance. Là, donc en effet, 80% de sorties en endurance, très peu de fractionnés. Sur Strava, hein, je vous invite à aller voir Hermano, je te l'ai dit, Benjamin Clerget. J'ai mis toute ma dernière prépa marathon sur Strava. J'ai quasiment aucun fractionné. Alors quand je dis fractionné, c'est type 400 mètres, les fameux 1 minute, 30 secondes. J'en fais quasiment pas. J'en fais un petit peu en rappel sur des petits cycles en hiver, par exemple, etc. pour retrouver un peu de vitesse. Mais je pense que franchement, jusqu'à mon niveau actuel et même encore à mon avis dans le futur, il y en a pas besoin. Après, c'est mon avis, c'est mon approche. Grâce à ça, je vais faire des sorties beaucoup plus longues. Mon système nerveux étant reposé, donc je vais pouvoir forcément permettre de faire d'autres types de sorties. Mais voilà, et donc pour terminer, sur marathon, j'ai signé en effet 2:41 là à Paris, il y a quelques semaines, avec une prépa seulement de 8 semaines. En général, je fais 8 à 9 semaines, pas plus. Ça, c'est un autre aspect, on le verra. Je fais rarement des semaines, des prépas de 12 semaines. En tout cas, moi, j'en suis pas capable, sans me blesser. Par contre, en étant en endurance comme ça une grosse partie de l'année, avec bien sûr des fartleks, des variations de rythme, attention, mais en étant principalement en endurance, en fait, on laisse vraiment le système nerveux se reposer. Et quand on le sollicite, on répond beaucoup. C'est un petit peu l'entraînement que les triathlètes, vous connaissez, comment on appelle ça ? Bipolarisé.
Polarisé.
C'est polarisé, merci. Donc voilà, on se rapproche également un petit peu de ça. Quand on a besoin de libérer les chevaux, on peut les libérer et ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Donc pour info, premier marathon, je crois que j'ai fait... alors premier marathon avec déjà beaucoup de... donc peut-être il y a 4-5 ans, j'ai fait 3h07 de mémoire. Ensuite, j'ai dû faire 2:55, peut-être quelque chose comme 2:52, 2:45, et là, vous voyez, 2:40, enfin 2:41. Donc, et j'ai pas changé, franchement, hein, j'ai pas changé mon entraînement, j'ai pas fait plus de fractionnés. C'est ce fameux seuil ventilatoire, c'est ce que explique très très bien Denis, j'insiste, hein, dans les anciens épisodes, l'optimisation de des échanges gazeux. Je crois que quand on a compris ça, il y en a pas beaucoup qui l'ont compris, hein, j'insiste même à haut niveau. Quand on a compris ça, en fait, franchement, hein, on progresse tout seul, quoi. Je me suis pas mis à m'entraîner 3 fois plus qu'il y a 5 ans, hein, c'est sincère.
En tout cas, chez nous, c'est pas faute de répéter, de redire, de réinviter des gens pour nous en parler du même sujet, mais différemment, sous d'autres aspects à chaque fois, et on essaye vraiment d'insister là-dessus. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Ce que j'aimerais dire quand même, j'ai aussi quelques questions à poser sur la présentation que tu nous as faite jusqu'à maintenant, mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que, évidemment, n'importe qui ne peut pas prétendre à courir 3 heures ou moins sur marathon, même avec une prise de conscience, même avec le meilleur entraînement du monde. Voilà, il y a a priori chez toi des prédispositions génétiques pour ça, et puis une performance qui est là chez toi et qui n'est pas forcément là chez tout le monde. Par contre, tout le monde peut bénéficier, et à n'importe quel âge, d'une prise de conscience et puis de se mettre au sport avec les conseils que tu vas nous donner plus tard dans cet épisode. Et puis, peut-être pas aller chercher un 2:40 sur marathon, mais d'aller chercher un temps qu'on n'imagine pas faisable pour soi sur marathon quand même. Faut pas absolument se fixer de dire « Bon, bah maintenant, j'ai écouté le podcast, il y a un type, il a fait 3 heures ou moins sur le marathon, donc je vais y aller aussi ». Mais ce sera possible de se mettre à n'importe quel âge à un marathon, ce sera possible de le finir dans de bonnes conditions, avec un temps dont on sera fier, mais voilà, c'est pas quelque chose d'anodin, et c'est quelque chose qui se prépare, mais je pense que cette transition de sédentaire absolu vers le marathon, et n'importe qui n'a pas de problème important au niveau de la musculo-squelettique ou autre, mais voilà, peut y arriver.
Après, je pense franchement, et c'est pas pour faire vendre ou quoi que ce soit, j'ai rien à vendre d'ailleurs, Aujourd'hui, moins de 3 heures, c'est accessible à beaucoup plus de gens qu'on imagine. J'ai pris le pari avec des amis, je travaille dans le sport, j'ai un ancien patron, je vais pas le citer, mais il se reconnaîtra, qui était en équipe de France d'aviron, qui m'a dit au bout d'un an, j'ai fait que le faire ralentir. C'est-à-dire qu'à ses sorties, j'ai fait que le faire ralentir. Et j'ai quand même beaucoup de retours d'expérience où les gens, au bout d'un an, me disent c'est hallucinant comme ma FC a baissé et comme j'ai progressé. Et je pense franchement, je dis pas pour 2,40, mais je pense franchement que 3 heures, c'est accessible à beaucoup plus de monde qu'on imagine. Après, je suis peut-être un peu provoque, voilà, je serais prêt à prendre le pari avec certains. Alors après, c'est plutôt une question de mobilisation, enfin d'investissement en temps. J'insiste pas en difficulté, en temps. Où là, je reconnais que là, c'est pas donné à tout le monde, enfin en tout cas dans les choix de vie, etc. C'est plus sur cet aspect. Mais physiologiquement, je pense qu'on y a accès. J'avais débattu, parce que je suis un ancien blogueur également, j'avais débattu avec un internaute, parce que j'avais fait mon premier article en disant le marathon en 3 heures c'est facile, donc un article toujours un peu provoque, et j'ai expliqué, et c'est réel actuellement, entre 2h52 et 2h40, et peut-être même entre 3h et 2h40, ma VMA elle a quasiment pas changé, voire pas changé, et ça c'est réel. Je vous parle avec test d'effort à l'appui, et ça il y en a qui ne le croient pas, qui disent que c'est pas possible. Je discutais avec un coach là récemment, Mathieu Gandolfi, pour pas le citer, qui est assez connu dans nos coins, qui regardait dans ses outils, qui n'en revenait pas, le pourcentage de seuil que j'étais capable de tenir sur marathon. En fait, c'est toujours pareil, c'est cette filière, ce pourcentage de VO2 qui augmente sans arrêt puisqu'on optimise ces échanges gazeux. Franchement, c'est bluffant. J'ai fait des grosses séances avec lui, il a pas du tout le même niveau que moi en plein hiver. À la fin de la séance, il n'en revient pas parce que j'ai toujours le sentiment d'être relativement facile alors qu'il a un niveau supérieur. Mais c'est juste que le pourcentage de FC Max, j'arrive à être beaucoup plus haut que lui. Et voilà, je referme cette parenthèse, mais permets-moi quand même de penser qu'il y en a beaucoup plus qu'on imagine qui pourraient faire 3 heures au marathon.
Oui, oui, oui. Alors ça, je te rejoins. Tout le monde n'est pas capable de le faire, mais beaucoup plus de gens que ce qu'on peut imaginer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et encore une fois, il va falloir passer par l'acceptation. Elle est très, très difficile. Du fait que pour courir un marathon en moins de 3 heures, il faut courir l'essentiel de son entraînement à des allures qui sont situées entre 9 et 11 km/h. Et ça, ça va être très, très compliqué à assimiler, même pour des gens qui font du marathon depuis des dizaines d'années, même pour un néophyte qui va se dire « je vais me mettre à m'entraîner pour le marathon, j'ai envie de le faire dans un bon temps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir en courant et en se mettant la misère ». C'est pas comme ça que vous allez y arriver. C'est un message qui est long à faire passer. Mmh. On va y arriver, Hermano, hein ?
On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Mais juste pour compléter, je me rappelle d'une chose qui m'a marqué quand on a enregistré avec Pierre Morat l'avant-dernier épisode de la saison 1, où Pierre Morat nous disait, mais même Eliud Kipchoge, donc rappelons-le pour ceux pour qui le nom ne parle pas, le gars court un marathon en 1h59 minutes et 59 secondes. Même Eliud Kipchoge fait énormément de sorties à 6 minutes au kilo. L'homme le plus rapide du monde, pour l'instant, sur marathon, il court à 6 minutes au kilomètre. Donc 6 minutes au kilomètre, ça fait 10 km/h. Donc si lui le fait, je ne vois pas pourquoi nous, commun des mortels, on ne le ferait pas aussi.
Ouais, je crois que Pierre Morat disait qu'il tournait ses sorties d'endurance à 12 km/h, hein, quand même. Mais ça fait du 5 minutes au kilomètre, mais mis en rapport à la vitesse à laquelle il court sur un marathon, ça veut dire que quelqu'un qui compte courir son marathon à 14-15 km/h devrait courir ses sorties d'endurance à quelque chose comme entre 8 et 9 km/h. Et personne fait ça, personne.
Et on parle bien de km/h, on parle pas de minutes par kilomètre.
Non, ouais, mais c'est ça. Bon, à 8 ou 9 km/h, on est presque proche des mêmes valeurs en minutes par kilomètre. Mais non, mais personne fait ça. Et effectivement, moi, quand je vais courir en endurance, je cours entre 5,45 et 6 minutes au kilomètre. Mais mis en rapport avec ce que court Eliud Kipchoge, moi, je cours trop vite.
Il y a des gens, moi j'aime bien j'aime bien Serge Cotreau, je vous dis en toute transparence son approche. Alors il est un peu décrié des fois par la Fédé, justement par ce qui se dit de manière générale, et il l'explique, et moi je fais partie de ces gens qui pensent qu'aujourd'hui on peut même remplacer les footings par de la marche active. J'insiste, j'en fais régulièrement, je m'amuse moi à prendre des paris comme ça. Le dernier marathon, je te racontais, Hermano, donc j'avais fait 2,45 à Metz, hein, je précise que Metz c'est quand même très difficile, enfin c'est pas roulant. Je me suis amusé à faire toute ma prépa en trail avec que du fartlek, donc je me suis amusé à garder ces fameux temps de maintien, donc garder le même temps de maintien que si tu faisais un 9 fois 1 km à 3,30 au kilo par exemple, mais de me dire voilà, je vais prendre ce temps de maintien en résistance, et par contre je vais le faire au gré de mes envies en fartlek sur une sortie dans les bois. Ben, je l'ai fait, j'ai réussi. Donc, parce que je travaille au cardio, ou en tout cas, je me connais, mais je respecte cette filière. Et c'est encore quelque chose d'expérimental que je me suis amusé à faire et qui a fonctionné, hein, franchement.
Pour boucler sur ce sujet-là, parce qu'on en a déjà longuement parlé avec Denis, on en a longuement parlé avec Benjamin, qui était venu nous parler aussi, comme tu l'as rappelé, de la variabilité cardiaque. Il y a un autre point vraiment qui m'avait marqué dans notre échange, comme tu l'as dit, c'est que tu t'es jamais blessé. Donc pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, un amateur, quelqu'un qui va se mettre à la course à pied ou même quelqu'un qui court déjà mais qui va se lancer dans son premier marathon, la première chose qu'il va faire, il va mettre des baskets et il va courir comme un bourrin. C'est pas pour critiquer, mais je crois qu'on l'a tous fait et on est encore nombreux à le faire. Toi, tu vantes les mérites de l'endurance fondamentale, comme d'autres et notamment comme Denis, et le résultat c'est que non seulement tu progresses, mais en plus tu te blesses pas. Comment est-ce que tu orientes ton entraînement? Est-ce que tu t'entraînes tout seul? Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que même si tu es accompagné, tu ajustes tes entraînements. Comment est-ce que tu gères ça et est-ce que ça a évolué depuis tes débuts en course à pied?
Alors, déjà, si je me suis blessé quand j'étais un gros dodu, au bout de 6 mois, donc en fait, c'est pour donner de l'eau à ton moulin. Donc, en effet, au début, j'ai foncé, etc. Et surtout, ça, c'est un classique que je vois aussi. Des fois, des anciens sportifs, d'ailleurs, se remettent à courir et bien souvent, psychologiquement, ils sont restés sur un niveau d'époque et ils se blessent tout de suite. Donc, ça, c'est un classique. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on fait 80% du temps en endurance et surtout qu'on se fixe peu d'objectifs, par exemple, vous voyez, j'avais essayé l'année dernière d'intégrer un semi, par exemple, dans ma prépa marathon. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire un semi déjà cool, en tempo, parce qu'aujourd'hui, on est quand même globalement, même si on fait attention, on tire quand même sur une course, hein, globalement. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, parce que enchaîner la semaine qui suit à des semaines à 100 bornes, 110, 115, je suis monté à 115 bornes semaine, là, pour les premières fois, puisque encore l'année dernière, j'étais obligé de mettre une sortie vélo à la place d'un footing, donc tu vois, encore une petite précision. Là, j'ai pas changé mon temps d'entraînement, même si j'ai gagné 5 minutes sur un marathon. Par contre, j'ai réussi à mettre sans avoir mal, naturellement, une sixième séance, donc au lieu de 5 séances, 6 séances de course à pied. Donc important, moins d'objectifs à l'année. Moi, j'ai 2-3 objectifs. Je fais beaucoup de trail, donc j'ai fait le marathon du Mont-Blanc cette année au mois de juin. Je fais des belles coupures de régénération, comme en ce moment. Dans le temps, on parlait de 42 jours pour récupérer d'un marathon. Ça, j'ai l'impression qu'on l'a complètement oublié. Aujourd'hui, je connais pas grand monde. Alors, c'est pas ne rien faire pendant 42 jours. Mais moi, je suis déjà pendant 10 jours. Ouf, cool, quoi. Je régénère, je mange beaucoup de légumes, je profite, je récupère, je commence à refaire des petits footings à 6 au kilo, même des fois 6,30. Là, je suis en vacances, je suis allé rouler avec madame. On était à 17 km/h tranquillement. Je refais un tout petit peu d'intensité, des petits fartleks. Et c'est seulement au bout de 3 semaines que je vais commencer à reprendre. Voilà. Et il m'est arrivé encore une petite anecdote. Quasiment tous les ans, je fais mon PR sur 10 km, vous voyez, 3 semaines après un marathon. Et ça, je trouve que c'est intéressant et ça fait réfléchir. Je fais mon PR sur 10 km. Hein.
Alors PR, c'est meilleur record personnel,
excusez-moi. Mais c'est important, vous voyez, dans la réflexion. C'est qu'en fait, on nous dit que sans fractionner, on n'est pas rapide. En plus, j'en fais encore moins que la moyenne. Je fais un marathon, donc on est normalement un gros diesel, et c'est le cas, hein, clairement. Mais puisque je régénère pendant 2-3 semaines, bah, automatiquement, je régénère d'une énorme séance, en fait, qu'on s'est infligée. Et on a un laps de temps, comme ça, quelques semaines, et je sais que vous le comprendrez très bien.
C'est la fameuse surcompensation.
Voilà, ouais. Et c'est réel, hein, ce que je vous dis. Et je suis pas le seul dans cette approche, à le constater. Et il y en a un qui disait, d'ailleurs, j'adore Benjamin Choquer de notre région, Hermano. Il a un peu la même approche, qui dit qu'il continue de dire que l'endurance développe la vitesse. Et ça, c'est réel. Et la boucle est bouclée, on en revient à ce qu'on disait. Donc voilà, moins d'objectifs, des vraies périodes de régénération, des vraies coupures. Alors, pas sans activité, hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit, il y aura toujours de l'activité. Par contre, je vais faire plus de muscu, je vais faire un peu de Zwift en hiver, avec pas énormément d'intensité, parce que je sais que ça va me cramer. Donc une séance d'intensité de PMA, par exemple, par semaine, éventuellement une deuxième, faire une petite course sur 5-6 sorties, etc. Des petits rappels. Et par contre, quand on charge, on charge. On charge, voilà.
Ouais, c'est tout à fait juste. Mais moi, j'aimerais revenir sur le tout début de la discussion. Vas-y. Par rapport aux blessures, tu nous disais que tu te blessais très peu. Et quand j'écoute la manière dont tu parles de ton entraînement, de ton mode de vie, ça se comprend. Si on reprend les phrases d'un de nos invités, qui est une sommité dans les connaissances en termes de blessures des coureurs, de soins des coureurs, c'est Blaise Dubois. Oui. Il est fondateur de la clinique du coureur. Il nous disait dans notre podcast, quand on l'a invité, 80% des coureurs qui se blessent, c'est dû à une mauvaise adaptation, de la progression dans le stress de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on augmente la charge d'entraînement trop rapidement.
C'est ça.
Ou de manière trop importante. 80% des blessures sont générées par ça. Donc si vous suivez la progression d'autres invités dans le podcast qui sont les deux fondatrices de VO2 Sport qu'on avait reçues juste après le lockdown du Covid, nous avait dit si vous reprenez une activité, n'augmentez pas la charge d'entraînement, le volume ou l'intensité de plus de 10% par semaine. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, si vous courez une semaine de reprise, vous allez faire deux sorties d'une heure, vous allez courir deux heures. La semaine suivante, mettez pas 6 heures d'entraînement parce que vous vous dites « Ah, ça s'est bien passé la semaine d'avant », parce que vous aurez largement dépassé les 10% de progression, vous allez vous blesser. Et donc, ça, c'est 80% des blessures pour le coureur. Après, si tu dis « Benjamin, et je suis très très content pour toi que ça se passe comme ça, que tu te blesses pas en course à pied », c'est très bien, mais le reste des 20% des blessures peut avoir une multitude de causes. Oui. Et chez certains coureurs, eh bien, malheureusement, la blessure, elle survient. On peut choisir des chaussures parfaites. On peut avoir une technique de course qui est parfaite. Il y a quand même des choses qui font qu'on peut se blesser. Alors, comme tu le disais, si on est en forme, qu'on a un poids de forme idéal, qu'on a une technique de course qui est bonne et qu'on respecte la progression dans l'entraînement, eh bien, on réduit drastiquement quand même le risque de blessure. Et puis, je pense qu'on va en parler aussi un petit peu dans ce podcast, même si le temps commence déjà à filer un peu, mais tu nous parlais au tout début de nutrition et puis de manger sainement. Ça fait aussi une partie importante des risques de blessures qui sont diminués, parce qu'avoir une alimentation équilibrée, bah, c'est respecter son corps c'est son outil de travail pour la course à pied.
Ouais, c'était un point que je voulais aborder, parce qu'effectivement tu avais parlé aussi d'alimentation. Pendant qu'on enregistre, on est en visio et on doit sortir une bouteille d'eau minérale, très minérale, donc effectivement on pourrait aborder ce point là qui est le point de l'alimentation. Toi, quand tu dis notamment dans ta phase de régénération, tu manges beaucoup de légumes, est-ce que ça veut dire qu'au quotidien tu es plutôt végétarien, t'es plutôt flexitarien, t'es plutôt quelqu'un qui a une alimentation variée? Alors j'aime pas dire équilibrée, parce qu'on sait pas ce que ça veut dire équilibrée. Un végétarien, il a une alimentation équilibrée, pour autant qu'il respecte certaines bonnes habitudes alimentaires. Donc toi, comment est-ce que tu te places au niveau de ton alimentation? Et surtout, quel lien tu fais entre ton alimentation et ta pratique sportive, voire même tes performances sportives? Parce qu'on pourrait tous bouffer des pâtes et du riz 3 repas sur 4 dans la journée. C'est pas pour autant que ce soit une alimentation hyper équilibrée.
Non, bien sûr.
Bien qu'on choisisse des pâtes ou du riz complet.
Après, il m'arrive régulièrement d'ouvrir une bouteille de vin, de boire une bonne bière, etc. Donc ça, on pourra en parler également. Juste par rapport à ce que tu as dit, Greg, juste avant, comment? Même si on fait de la régénération, j'insiste, je fais de l'activité tous les jours. Hein, je le précise. Bien. Aujourd'hui, je fais des préparations qui sont très courtes, sur 9 semaines, ça surprend plus d'un. Par contre, je garde toujours, on va dire, je passe, en moyenne, je suis à 60 km semaine, par exemple, au cours, sur l'année, et je vais monter à 100 km semaine en prépa marathon. Donc, vous voyez, je pourrais pas descendre en dessous de 60 km semaine pour me permettre de monter à 100 km semaine. Voilà, juste une petite parenthèse, mais sous l'impression que je donne de régénérer, j'insiste, je peux faire mes 15 000 pas par jour, parce que je vais aller me balader là, cette semaine, en bord de mer, dans les cailloux, etc. Voilà, je voulais quand même le préciser. Hein. Donc, voilà, c'est bien une histoire de système nerveux et d'intensité. C'est-à-dire que tout l'hiver, je suis capable de faire 5 à 10 minutes d'intensité seulement par semaine. Voilà, mes fameux rappels, c'est ça, hein, l'hiver. Hein. Si vous me suivez un petit peu sur Strava, je l'explique. Je fais beaucoup de runs progressifs, c'est une fois semaine, où je vais monter, je vais gérer vraiment chaque allure, et je vais faire seulement 5 minutes au seuil, à intensité, par semaine. Voilà, donc pour juste faire le rappel, et le jour où je sollicite lors d'une prépa le système nerveux, et ben là il sera prêt et il répondra présent. Ensuite, pour revenir sur l'alimentation, alors je mange de la viande, par contre je mange de la viande de qualité. Moi j'ai mes poules, j'ai mes lapins, comme je te le disais dans la façon de vivre. Je suis pas quelqu'un de dogmatique, hein. Je veux dire, aujourd'hui je pense clairement qu'on mange trop de viande, ça c'est un avis, mais on peut en manger, c'est quand même une source de protéines, surtout quand on y a accès comme ça de façon rapide, saine et peu coûteuse. Bah clairement je m'en prive pas. Par contre, il est clair, et on en a voulu en parler sur ma prise de conscience, il est clair que je crois beaucoup aux légumes, aux fameux, alors j'ai pas parlé de jeûne intermittent parce qu'encore une fois j'essaie de pas être dogmatique et les gens sinon vont foncer sur ces sujets. Par contre, il est clair qu'à mes débuts, j'ai vraiment compris une chose, c'est qu'on mangeait trop. Et je vous donne un exemple typique, parce que j'ai une compagne qui est alsacienne et qui aime bien manger. J'ai tendance à dire aux beaux-parents, quand on se lève tard le dimanche et qu'à midi on est déjà à table, je leur dis, mais en fait, quand on a notre voiture qui est garée devant la maison, qui admettons ralentit, est-ce qu'on irait faire le plein à 13h puisqu'elle a tourné au ralenti toute la matinée? Et j'aime bien cette image, c'est qu'en fait on a on travaille en général de façon assez sédentaire, on est au bureau, etc. Et bien souvent à midi 13h on a faim et on va aller remplir notre voiture alors qu'on a quasiment rien consommé. La grosse prise de conscience que j'ai, que je voudrais partager, c'est, et vous en parlez également dans vos podcasts, c'est la glycémie. C'est que je crois que le jour où j'ai compris que j'ai rééquilibré mes repas, mais pas au sein des repas, au sein de ma journée, clairement, ma vie, elle a changé. Et là, je vais être concret. Je suis passé du petit-déj où je prenais mon mug Boudoum dans ma voiture et mes quatre petits Belvita, là, je sais plus comment ça s'appelle, pour tenir la matinée.
Ouais, les petits biscuits voilà. Céréaliers.
Il est clair qu'à 11h, même midi, c'est pas possible de faire du sport. Aujourd'hui, moi, je fais toutes mes séances entre midi. Du coup, à mon niveau, je fais régulièrement des semis, hein, vous en doutez, le midi, en prépa. Et je mange, il est 15h, quoi, voire 16h des fois à mon travail. Parce que j'ai géré cette fameuse hypoglycémie réactionnelle qu'on a quand on a pris un petit-déj très sucré. Je l'ai très bien géré parce que je l'ai peu ressenti. Donc, je vais prendre un petit encart, une banane éventuellement à 11h30 à midi avant d'aller manger. Et j'ai aucun souci avec ça. Et automatiquement, puisque je mange à 15-16h, donc là c'est important, hein, on le sait, j'ai bien mangé, et ben le soir on a moins faim. Et vous voyez, tout cet équilibre se fait. Et par contre le matin, et je pense que vous l'aurez compris, le matin c'est pump it up, hein, comme on dit. J'ai une amie qui était danseuse étoile qui me disait ça. Mais le matin, il faut littéralement se gaver. Moi je mange 2 œufs tous les matins, d'ailleurs mes enfants c'est pareil. 2 œufs, je mange de la protéine, je mange parce que donc la protéine Achilles, vous le savez, vous en avez déjà parlé, le fameux pic glycémique, de son muesli, de ce que vous voulez, même si on fait attention, il y a toujours un petit peu de sucre. Et j'insiste, le matin, c'est vraiment énormément d'énergie pour pouvoir lisser ensuite toute la journée. Et ça, c'est une vraie prise de conscience que j'ai, Hermano, pour répondre à ta question. Et automatiquement, le soir, je crois beaucoup à l'adage, le matin, c'est le repas du roi, je crois, le midi du prince et le soir du pauvre. Hein. En France, on dit beaucoup ça. Et ben en fait, c'est un peu le mode de vie que j'ai adopté qui a clairement changé complètement ma vie. Puisque le soir, c'est en hiver, ça va être la soupe, ça va faire rigoler les gens, mais c'est vrai, soupe complète, mais une soupe, et en été pour la grosse salade, alors grosse salade composée, etc. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Donc énormément de légumes, hein, bien entendu. Et pour ce qui est de la blessure, il est clair que les légumes, pareil, on n'en parle pas souvent, l'équilibre acido-basique, on a tendance à oublier que les légumes basifient énormément le corps. Plus le sommeil, le stress de nos journées, on en parle peu. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait encore parler de ce sujet peut-être avec un autre intervenant. Mais aujourd'hui, je me repose. Il m'est arrivé dans le passé de faire carrément des petites siestes avant de faire des grosses séances de prépa marathon. Bah, sans la petite sieste, la séance, je sais qu'elle passerait pas. Donc, vous voyez, c'est tous des aspects, on n'en parle pas, mais il m'est arrivé, et je crois que c'est Julien Wanders qui l'expliquait dans la tête d'un coureur, qui dormait jusqu'à 12 heures par jour. J'avais trouvé ça énorme. Mais l'addition des siestes et de ses nuits, on parlait de 12 heures par jour. Et je pense qu'avant même la nutrition, il y a aussi cette partie. Donc énormément de légumes, des repas qui sont rééquilibrés au sein de la journée, au-delà de l'équilibre alimentaire, et beaucoup de sommeil. Hein.
Bon ben voilà, je pense que on a déjà la première checklist pour pouvoir commencer à se mettre au sport si on souhaite le faire. Alors après, nos auditeurs et nos auditrices sont plutôt des adeptes de l'activité physique, mais en tout cas, si on arrive à convertir 3 ou 4 personnes à cette fameuse prise de conscience qui est plutôt globalisée, hein, pas uniquement sur l'entraînement, mais l'entraînement en endurance fondamentale, peut-être même bien au-delà du 80-20 dont on parle souvent, avec 80% d'endurance fondamentale et 20% où on tape un peu plus dedans. Toi, t'es plutôt adepte, si j'ai bien compris, de 90-10, plus l'alimentation, plus le sommeil, plus le mouvement régulier. Bon, on n'est pas trop mal là pour commencer.
C'est ça, vous avez compris. J'ai rien inventé, comme on dit des fois, il n'y a rien de magique.
Mais en fait, la magie de tout ça, c'est l'équilibre. Hein. C'est tu l'as parlé, équilibre entre tout. Donc, équilibre au niveau nutritionnel, équilibre au niveau de son rapport avec son alimentation et avec son poids. Parce que toi, tu nous as dit que tu as eu un déclic parce que tu te considérais en surpoids, tu ne performais pas en sport comme maintenant.
Je souffrais.
Quelqu'un qui peut avoir ce déclic peut partir dans un extrême opposé, c'est-à-dire se dire je suis trop gros, mais ensuite avoir un problème au niveau de son rapport à son corps et son poids, et puis passer du mode je suis un peu un gros dodu, comme disait Hermano au début de l'épisode.
C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Denis Boucher.
Je suis quasiment un sportif anorexique. Les auditeurs ne te voient pas comme on te voit nous pendant qu'on enregistre cet épisode. Mais tu as tout à fait la silhouette du sportif vraiment hyper taillé, mais on décèle clairement pas un problème de poids. Alors que quand on voit certains sportifs ou certaines sportives qui sont passés du côté extrême, on se dit là il y a un petit problème dans la gestion du poids et peut-être qu'il y a un problème de santé derrière. Et toi tu le dis, avoir un corps en bonne santé, c'est une alimentation et une gestion de son poids, un rapport à son poids qui est équilibré, une gestion du sommeil qui est bonne. C'est vrai que dans nos sociétés, dans nos modes de vie, en général, on ne dort pas assez. Et plus on fait d'activités sportives en plus de sa vie de tous les jours, plus il faut qu'on récupère, donc on devrait dormir plus. Chacun a un cycle circadien qui lui est propre. Hein, donc il y a certaines personnes qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres.
Oui, oui, bien sûr.
Mais aussi, voilà, aussi respecter ça. Et puis, tout réussir à mettre dans sa vie. À l'activité professionnelle et à la vie de famille, il y a le sport et ben voilà, garder une place pour tout ça.
Et ça se fait petit à petit surtout, hein. Attention, hein, des fois, ça paraît inaccessible de se dire, ouais, non, mais il est gentil, il a ses animaux, son potager, ma femme ne travaille pas, c'est des choix de vie qu'on a fait, comme je vous l'ai dit, gagner moins, mais avoir une vie moins coûteuse. Mais ça, ça s'inscrit dans la durée. Ça, c'est important de le préciser. Aujourd'hui, ça peut être de se dire, bah, dans 5 ans, d'ici 5 ans, j'aimerais tout doucement arriver à ça. Ça se fait petit à petit. Donc voilà, moi, je fais 67 kilos, hein, pour, au moins, on est concret pour les auditeurs. Je fais 67 kilos pour 1m60. Donc j'ai des gens qui sont bien plus fins que moi. Et comme tu l'as dit, le sommeil. Et il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier, c'est que le stress, tel qu'il soit, d'ailleurs le stress de l'entraînement, comme tu l'expliquais, est très oxydatif. Et avec les responsabilités dans le travail qu'on peut avoir, on est quand même globalement une population assez stressée dans les pays développés, le stress est très oxydatif. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais ça commence à faire beaucoup de petites choses à savoir. Quand on les cumule, on se dit, ah, il y a quand même peut-être moyen de beaucoup optimiser mon entraînement, en tout cas ma vie, pour performer.
Alors peut-être pour terminer, justement, avant de te laisser une dernière fois la parole pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, et notamment, on l'aura bien compris, sur Strava, il y avait une question qui était restée en suspens, c'est est-ce que tu as géré tout ça tout seul ou est-ce que tu es accompagné, que ce soit sur la partie nutrition, sur la partie sommeil, sur la partie sportive, sur la partie, j'en sais rien, comment on fait pour élever des poids. Enfin voilà, est-ce que tu es accompagné sur tous ces sujets-là ou est-ce que tu y vas tout seul à force de lecture, de recherche et autres?
C'est ça. Non, en écoutant Nakan principalement.
merci.
Non, mais c'est sérieux. En fait, je suis quelqu'un qui m'intéresse à tout. Je suis un peu hyperactif comme ça de la connaissance et j'ai une vraie fierté quand je regarde le classement du marathon de Paris, par exemple. Je crois que j'ai fait, je sais plus, 145e sur 30 000, de voir un trou au niveau de mon club. Donc t'as tous les clubs qui sont listés à côté. Des personnes et d'avoir un trou au niveau de ma ligne sans club parce que j'ai pas de club et non j'ai pas de coach, j'aime être mon propre coach, je prends un vrai plaisir et c'est exactement ce qu'on disait sur le j'ai tendance à dire avec peut-être un manque de modestie de dire mais l'objectif il est déjà réussi quand on me demande c'est quoi ton prochain objectif et c'est sincère et ben en fait dans mes plaisirs, dans mes fiertés, j'ai le fait d'être mon propre coach au même titre que j'aime faire un marathon régulier et que moi ce qui m'obsède c'est le négatif split, donc on va pas rouvrir la parenthèse là-dessus mais en tout cas, ça fait partie des stratégies que j'adopte de partir toujours très doucement. J'ai d'ailleurs beaucoup de gens qui me connaissent et qui se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast, qui disent avec Benjamin, faut se méfier parce que c'est le seul qui est capable de nous doubler sur du long à la fin, sur le dernier quart de course. Et c'est ce qui arrive souvent pour les courses que j'ai pu gagner dans la région. Voilà. Donc, on recherche tous des choses différentes. On le sait dans le sport. Moi, ce qui fait partie de mon plaisir, c'est d'être mon propre coach.
Eh ben, écoute. Merci beaucoup pour cet épisode aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation. Greg, tu voulais poser une dernière question pour terminer ou on en reste là ?
Non, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit parce qu'il a dit bah, c'est en écoutant le podcast de Nakan que j'ai appris plein de trucs. Alors c'est vrai que nous on ouvre plein de portes, hein, Hermano, et puis on s'intéresse à plein de sujets différents, mais on les creuse pas forcément aussi loin que ce qu'il faudrait pour pouvoir vraiment opérer un changement. Hein, et ça, on en est conscient. Notre objectif, il est peut-être pas forcément là, parce que si on passait toute une saison à parler d'alimentation, de nutrition, peut-être que ça intéresserait pas autant de monde. Par contre, je suis très content, flatté d'entendre Benjamin qui dit bah voilà, ça a été une entrée dans ces réflexions-là. Mais par contre, j'invite tous les auditeurs qui s'intéressent à toutes ces questions qu'on a abordées dans des épisodes passés et dont on a reparlé encore dans cet épisode ici, c'est que ça peut vraiment changer la vie. Et voilà, il y a certains changements que j'ai opérés chez moi aussi. Et à chaque fois qu'on enregistre un nouvel épisode, j'essaye d'appliquer des changements dans ma façon de faire. Récemment, j'ai fait quelques séances de body scan. Pour l'instant, c'est encore pas extraordinaire en termes de résultats, mais je vais persévérer.
J'allais te poser la question justement.
Ben voilà, j'invite les auditeurs qui s'intéressent au sujet qu'on aborde à se renseigner un petit peu plus sur ces sujets-là et puis surtout à nous faire des retours s'il y a des points particuliers de nutrition. Benjamin nous a parlé aujourd'hui de l'équilibre acide-base et qui est très très important aussi en nutrition, qu'on n'a pas beaucoup encore abordé dans le podcast. C'est des sujets qui peuvent intéresser peut-être certains auditeurs. Moi, je les creuse très très volontiers. On trouve des invités pour parler de ça, des experts du domaine, et puis on les invite et on parle tout ça. Mais la curiosité individuelle va faire beaucoup. Après qu'on ait effleuré un sujet dans un épisode, très très content qu'il y ait des auditeurs qui aient creusé plus loin. Et si vous avez des retours à nous faire par rapport à ça, on est super preneurs.
L'hydratation, enfin c'est concret. J'ai réécouté les podcasts pour me remettre bien dans le bain les derniers avec Denis sur l'hydratation. J'ai écouté dans la voiture en venant. Hein, vous pouvez être flatté avec madame. Mais en fait c'est concret. Ce qu'il dit à un moment donné, on se pèse avant de partir, on se pèse au retour. Je l'ai jamais fait. Bah vous voyez, j'ai déjà envie de le mettre en application. C'est concret. Donc voilà, ça c'est un exemple typique. Vous avez parlé du processeur, enfin de Sapiens, il me semble qu'on mettait sur le bras. Je ne connaissais pas. Alors je vais pas l'acheter pour autant, ça a un coût. Par contre dans ma tête, le retour d'expérience qui disait en fait ma glycémie Elle variait suivant ce que je mangeais en premier, par exemple, dans mon repas, au départ de la course, suivant ceci, suivant cela. Ben moi, tout ça, j'ai enregistré. Et je me dis, moi, je suis persuadé, moi, je vois des vraies différences d'hypoglycémie réactionnelle suivant le petit-déj que je prends. Alors qu'en taux de sucre, ça va être la même chose, mais la façon dont je les ai pris, etc., je vois des différences. Ben, hop, je vais creuser encore, etc., etc. Donc, c'est vraiment cette logique de s'intéresser, de beaucoup lire, écouter du contenu, notamment le vote, c'est ça que j'ai voulu dire, et qui permet de progresser sans arrêt, en fait. Hein.
Ouais, super, vraiment, moi aussi je suis très heureux de ce retour d'un auditeur. Comme le disait Greg, si vous avez toutes et tous des retours à nous faire et si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas. En plus, dans la prochaine saison, on s'est dit avec Greg qu'on allait beaucoup plus intensifier le niveau des réponses qu'on vous apporte. Jusqu'à présent, on vous envoie un petit mail quelques jours ou quelques semaines après, parce que on vous rassure, on lit toutes vos questions, on se les met de côté et on se dit toujours on va y répondre, et puis on est happé par nos sujets. Mais pour la saison 4, on vous prépare quelques épisodes comme ça assez courts pour répondre à vos questions. Tout ça pour dire, Benjamin, merci encore d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Si jamais nos auditrices et nos auditeurs ont d'autres questions, qui veulent rentrer en contact avec toi, voire même creuser avec toi certains sujets, ou même peut-être t'accompagner sur un marathon en vélo, parce que tu vas quand même assez vite, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
Alors, sur Strava, en plus je mets toujours des petits comptes rendus de course, donc c'est Benjamin Clergé de mémoire. J'ai pas encore trop de support, etc. J'ai simplement Instagram, éventuellement, je crois que je l'ai passé en public en plus le compte, donc c'est Oncle Ben avec deux N. Vous verrez mes poules, ma façon de vivre, et je dirais que j'ai au moins autant de fierté dans la façon de vivre que mes performances, franchement. Voilà, parce que c'est un travail de longue haleine pour le coup, et ça fonctionne. Voilà, on est en train de le vivre. Donc voilà, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout.
Bon, on mettra tout ça en lien dans les notes de l'épisode, et puis on se réjouit de suivre tes futurs exploits sur ces médias-là.
Ça marche.
Et puis moi, je me réjouis d'aller fouler un petit peu le sol mosellan avec toi dans quelques jours.
J'espère
quand tu seras revenu du soleil du sud. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable fin de journée, une très bonne fin de semaine, chères auditrices, chers auditeurs également. N'oubliez pas d'aller nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, si possible avec une note 5 étoiles. Ça nous permet de progresser et puis surtout ça nous permet de nous rendre encore plus visibles et donc peut-être d'éveiller certaines consciences comme on a pu y contribuer avec Benjamin. Bonne journée et à bientôt.
Merci.
À bientôt.